Le 13 avril 2016 est votée la loi numéro 2016-444 qui vise à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et accompagner les personnes prostituées. Cette loi relance alors la politique abolitionniste de la France qui existait depuis 1960 en matière de prostitution, mais aussi la complète et lui donne de nouveaux moyens. Et en 2016, les éditions Percé publient « Non au système prostitutionnel » et nous en recevons l'auteur, Geneviève Duché. Bonjour Geneviève Duché.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous dans les studios d'FM+.
C'est un plaisir.
Alors Geneviève Duché, vous êtes féministe, universitaire, docteur d'État en sciences économiques, diplômée en sociologie et en psychologie. Vous avez été longtemps président de l'Amicale du Nid, une association qui accompagne les personnes en situation de prostitution, et vous avez milité pour la reconnaissance de leurs droits fondamentaux et milité aussi pour leur insertion sociale et professionnelle. Ça, c'est un engagement important.
C'est un engagement important, et surtout l'engagement qui doit être derrière cet engagement, c'est de faire tout pour que la prostitution disparaisse.
Oui.
Puisque la prostitution est une violence, et particulièrement une violence à l'encontre des femmes.
Alors cette loi de 2016, elle a déjà été une grande victoire.
Alors la loi de 2016 a été une grande victoire. On affirme là, on confirme l'abolitionnisme de la France en matière de prostitution. Et c'est une loi qui prend en compte de l'ensemble du système prostitutionnel.
C'est ça, vous tenez bien au titre « système prostitutionnel » et non pas « la prostitution ».
Voilà, alors on peut dire rapidement la prostitution, mais le système prostitutionnel indique bien que nous n'avons pas seulement des comportements individuels, particuliers et des contrats qui se passent entre deux personnes, mais que nous avons dans la prostitution un véritable système qui est en fait complètement articulé sur le système patriarcal, c'est-à-dire le droit des hommes d'accéder au corps des femmes et d'accéder là, dans la situation de prostitution, à partir de l'argent dont elles ont besoin, puisque la plupart sont des personnes en difficulté et particulièrement vulnérables. On aura l'occasion d'y revenir.
Alors,
donc c'est un système dans lequel participent évidemment ce que nous appelons les prostitueurs, c'est-à-dire les proxénètes et les clients de la prostitution, hein, qu'il faut mettre entre guillemets, qui sont aussi des prostitueurs. Nous avons les victimes, les personnes prostituées. Nous avons aussi autour tout un système. Hein, quand je dis les proxénètes, il faut ajouter les trafiquants aussi, et ceux qui font de la traite des êtres humains. Mais nous avons aussi l'État, qui, selon qu'il réglemente ou pas la prostitution, qu'il intervient dans ce système. Hein. Regardez l'Allemagne, par exemple. Bon, ben, on organise des bordels à peu près partout dans ce pays. L'État, donc, accepte cette situation et donc participe au système prostitutionnel.
Alors déjà, en 2016, ça a déjà été compliqué de mettre en place cette loi. Vous avez été politiquement reçu d'une façon bienveillante, ou est-ce que c'était vraiment comme une pierre dans la cour, dans la mare?
Vous avez remarqué qu'il avait fallu du temps, déjà. Hein, un premier rapport de député en 2011, puis en 2012-2013, une proposition de loi dont nous obtenons le vote que le 13 avril 2016. 13 avril 2016, donc du temps, des débats, ce qui a été aussi important parce qu'une loi aussi importante qui rompt avec ce que l'on croit être la prostitution, savoir le plus vieux métier du monde, et donc quelque chose de normal, hein, ce qui rompt totalement avec ça, ça mérite un débat et ça mérite des analyses, des explications. Et ça a donné le temps d'expliquer ce que nous voulions.
Il était nécessaire.
Hein. C'était à la fois dur pour nous, parce qu'on était constamment sur la brèche, hein, et on avait peur tous les jours que cette loi n'aboutisse pas. Le Sénat l'a bloquée particulièrement, d'ailleurs, de façon importante. Mais en même temps, ça nous a donné l'occasion de parler, de discuter, de démontrer qu'il la fallait, etc. Et quand elle est votée en 2016, la première chose que nous attendons, c'est son application pleine et entière. Hein, on aura l'occasion d'y revenir certainement, mais c'est une loi, je crois qu'il faut le préciser, qui est complète en ce sens qu'elle s'appuie, comme nous le disons, sur quatre piliers qui constitue le système prostitutionnel, l'essentiel du système prostitutionnel. D'abord, donc, un accroissement de la lutte contre le proxénétisme et la traite des êtres humains, bien sûr. Et ça, en France, on a déjà une lutte contre le proxénétisme depuis 1960, c'est avec des textes assez forts, plus ou moins appliqués, effectivement, mais des textes sont là. Donc, on renforce cet aspect, premier pilier. Deuxième pilier, bien sûr, la dépénalisation des personnes prostituées. La prostitution n'est pas interdite et les personnes prostituées qui sont considérées comme des victimes ne peuvent pas être poursuivies pour ceux dont elles sont victimes. Hein. Donc, dépénalisation. On se souvient que depuis 2003, le racolage passif était pénalisé, hein, ce qui les fragilisait énormément, ce qui les mettait sous la coupe souvent de la police, hein, qui faisait souvent n'importe quoi avec elle. Donc, ça, c'est clair. Et en même temps, ce deuxième pilier, dépénalisation et accompagnement des personnes prostituées vers la sortie de la prostitution, quand elles le souhaitent, et vers l'insertion professionnelle, évidemment, l'insertion sociale et professionnelle. Troisième pilier, très fort aussi, la prévention de la prostitution. La prévention est donc auprès des jeunes, l'intervention auprès des jeunes, pour qu'ils comprennent ce que c'est et la lutte contre cette forme de violence et toute marchandisation du corps humain. Et on sait que c'est très important actuellement parmi les jeunes et les adolescents. Et donc ça, mais pour pouvoir faire de la prévention et pour pouvoir lutter contre le système prostitutionnel, il faut un quatrième pilier qui est effectivement l'interdiction d'achat d'actes sexuels. À la fois parce que c'est un acte violent, donc il n'y a aucune raison, en particulier dans un pays qui se targue de faire une politique d'égalité entre les femmes et les hommes et de lutter contre les violences à l'encontre des femmes, il n'y a aucune raison d'accepter que cela continue. Donc, pénalisation, on va le voir, avec sanctions relativement légères, nous aurions aimé aller plus loin, et en même temps nécessaire donc, pour bien sûr responsabiliser les prostituées, mais aussi dire aux jeunes que c'est interdit. Sinon, comment leur dire qu'il ne faut pas acheter un acte sexuel si, par ailleurs, ce n'est pas interdit, ou si leur père peut le faire. Donc, évidemment, il y avait une cohérence là. Et ces quatre piliers donc, nous permettent, ou doivent nous permettre maintenant, avec l'application, d'aller vraiment, de lutter vraiment contre l'ensemble du système. Voilà. Et en priorité, de dire aux victimes et d'aider les victimes à sortir de là.
Donc cette loi votée en 2016, elle est rentrée en application à quel moment ?
Alors elle est rentrée en application, vous savez que lorsqu'une loi est votée, il faut des décrets d'application. Donc c'est souvent, on noie les lois comme ça, en ne sortant jamais les décrets. Là, nous avons une chance, je crois, lié au fait de la volonté des personnes qui avaient voulu cette loi, non seulement des députés, mais des ministres des droits des femmes. Et à l'époque, donc, il y avait eu Najat Vallaud-Belkacem qui l'avait voulu, cette loi. Et puis, nous aboutissons à une époque où c'est Laurence Rossignol, hein, qui se bat toujours, d'ailleurs, qui s'est battue, là, dernièrement, contre la QPC, et qui absolument voulait cette loi. Et donc, il y a fait bouger tous les ministères concernés, évidemment.
Quand on veut, on peut. C'est quand il y a la volonté, les choses bougent. Hein.
Quand il y a une volonté politique.
Ça avance.
Oui, on franchit des montagnes. Quand il y a la volonté politique, on aura l'occasion aussi certainement d'y revenir pour l'application maintenant. Mais voilà. Donc voilà, en 6 mois, les décrets étaient sortis, ce qui est très rare. Hein, très rare. Mais elle s'est pressée aussi. On peut le dire, parce qu'aussi, elle savait qu'on arrivait au bout d'une législature.
C'est ça. Là encore, des enjeux politiques.
Eh oui, si les choses n'avaient pas été faites, peut-être qu'on ne les aurait pas.
Ça sera encore en suspens. Voilà. Ouais, ouais.
Donc, voilà, on l'a eu. Et puis, on a commencé à appliquer. En tout cas, les ministères chargés de l'appliquer ont commencé à appliquer. La lutte contre la prostitution est quand même une politique publique en France. Hein, et une politique d'État. Donc c'est l'État qui finance la plupart des actions d'accompagnement et d'insertion des personnes prostituées.
Alors, vous avez évoqué la QPC. Alors, un petit jargon là, juridique, parce qu'en effet, dernièrement, en janvier 2019, le Conseil constitutionnel avait été saisi par le Conseil d'État pour examiner si cette loi était bien conforme à la Constitution.
Voilà.
Et ça, il y avait des associations qui s'opposaient finalement à l'application de cette loi.
Oui. Alors, vous devez penser que, évidemment, pendant les 3 ou 4 ans de débat pour cette loi, il y a eu des opposants, évidemment. Bon, les grandes associations comme Médecins du Monde, par exemple, des associations comme ça. Mais la loi est votée, elle commence à être appliquée. Et donc ça veut dire que si une loi est appliquée, le Conseil constitutionnel n'avait rien dit contre lorsqu'elle avait été votée, puisqu'on... Bon. Et que personne n'avait demandé au Conseil constitutionnel d'intervenir. Mais là, tout d'un coup, on a eu quelque chose d'assez fort, hein, un geste fort de la part d'associations et donc d'avocats qui se mettent à leur service. C'est une question prioritaire de constitutionnalité. Voilà. Et la question prioritaire de constitutionnalité, elle portait sur, en particulier, donc, le dernier pilier de la loi, à savoir... la pénalisation de l'achat d'actes sexuels. Elle disait, cette loi porte atteinte à la vie privée, porte atteinte à la liberté du commerce et porte atteinte à la proportionnalité des peines.
C'est ça. C'est comme si on entravait une liberté individuelle.
C'est ça.
Hein, que de voter, si... que d'appliquer voilà. cette loi de 2016.
Voilà. Heureusement que le Conseil constitutionnel a bien vu que le droit des hommes à disposer du corps des femmes n'était pas un droit constitutionnel, mais
ni un
vous
droit
voyez
fondamental.
Ni d'un droit fondamental. Non, mais c'est ça, en fait, heureusement qu'on a cette réponse, quand même, qui dit des choses sûres. Mais c'est le grand étonnement, quand même, que
mais
des
oui,
associations
comme Médecins du Monde,
qui aident, qui portent secours, etc., ne voient pas la violence qu'est la prostitution et se mettent dans cette idée qu'on pourrait porter atteinte à la vie privée, mais la vie privée de qui ? La vie privée des personnes prostituées ? Elles n'en ont pas, elles le disent, elle est complètement détruite.
La vie privée des proxénètes ?
Alors, la vie privée des proxénètes, qu'est-ce que ça veut dire ? Ils sont reconnus depuis toujours comme des
truands.
Des truands.
La vie privée des hommes,
gens
en général.
Violent. La vie privée des hommes, c'est plutôt ça dans leur esprit. Mais c'est terrible de ne pas pouvoir remettre en question le système dans lequel nous sommes, dans lequel nous sommes. Ce droit des hommes à, quelles que soient les conditions, à jouir de l'autre. C'est quand même assez extraordinaire et c'est même très triste qu'une grande association comme ça se prête à ça. Donc liberté de commerce. D'abord, c'est pas
commerce
un commerce.
Commerce humain.
C'est pas un commerce, oui. Bon, il y a effectivement la protection du corps humain. Avoir la maîtrise de son corps, ça ne veut pas dire qu'on peut vendre son corps et les parties de son corps. C'est au contraire l'inverse, qu'on peut protéger son corps de la marchandisation et être autonome dans ses désirs et ses choix. Et de ce si on s'est battu pour ça, pour les femmes, hein, le droit à l'IVG, le droit effectivement à la maîtrise de son corps, et ce n'est pas pour le vendre. Bon. Et c'est pour ça qu'aussi, avoir le planning familial dans cette QPC, après, qui a rejoint un médecin du monde, pose quand même... C'est extrêmement inquiétant. Quoi, hein, en fait, on a là quelque chose qui... D'un libertarisme qui rejoint l'ultralibéralisme, hein, d'une jonction là qui est inquiétante. Hein. Et quant au commerce, effectivement, la liberté du commerce... droit national ou un droit européen peut toujours justement interdire un commerce qui porte tort. Un commerce qui est violent, le proxénétisme est interdit. On pourrait nous dire liberté du commerce entravée. Donc vous voyez, il y avait, quant à la proportionnalité des sanctions, des peines, comme vous avez dû le voir, cette responsabilisation des clients, elle passe par une première amende qui est de 1 500 € maximum.
Jamais appliqué.
Jamais appliqué à ce tarif. Il y a des amendes, mais jamais appliqué. Que s'il y a récidive, c'est 3 750 €. Et le juge peut décider que cette amende sera accompagnée d'un stage de compréhension de ce qu'est la prostitution et de sensibilisation à ce que les clients font quand ils achètent un acte sexuel. Ce qui, ma foi, est assez intelligent comme sanction et comme idée, parce que justement, il faut expliquer. Il faut expliquer ce que l'on produit quand, comme ça, on achète un acte sexuel, ce que j'appelle, moi, un viol tarifé.
toujours sur FM Plus 91 FM, on parle du système prostitutionnel, on dit non au système prostitutionnel et nous sommes en compagnie de Geneviève Duché pour évoquer cette loi de 2016 qui a été qui a été très rapidement appliquée. On va revenir sur les applications de cette loi. On a vu aussi qu'en janvier le Conseil constitutionnel avait été saisi pour identifier sa constitution de cette loi, si elle était bien on a vu que le Conseil constitutionnel avait validé cette loi. Mais j'aimerais revenir, Geneviève Duché, sur la place qu'a eue l'Amicale du Nid que vous aviez à l'époque, présidée. J'ai l'impression, je pense qu'il fallait toute cette force et ce savoir de ces femmes qui vivaient ces conditions de vie qui n'étaient. Il fallait avoir tout ce passé en tête pour militer à ce point.
Il fallait, oui. Et l'Amicale du Nid est née en 1946. Donc, c'est une ancienne association dont le fondateur avait créé déjà des structures avant même 1946. Et vous savez qu'en France, il existe au départ trois grandes associations abolitionnistes qui ont comme objet, effectivement, de lutter contre le système prostitutionnel. Il y a l'Amicale du Nid, le Mouvement du Nid et la Fondation SEL, qui s'occupe particulièrement du trafic et de la traite des êtres humains et qui fait de beaux rapports sur la traite dans le monde. Donc, l'Amicale du Nid, ces trois associations ont fait démarrer le groupe abolitionniste, effectivement, à Paris, avec 65 associations pour obtenir effectivement une loi dont on parlait tout à l'heure. Et au départ, Mouvement du Nid et Amicale du Nid étaient réunis. Nous avons deux branches d'un même engagement du fondateur qui était abolitionniste. Donc ça fait longtemps que l'Amicale du Nid et le Mouvement du Nid sont abolitionnistes. Dès le départ, c'était l'idée. Donc bien avant 1960, quand les décrets abolitionnistes de la France les ordonnances sortent et que nous ratifions la Convention internationale 1949 de lutte contre la traite et la prostitution. La France ne l'a ratifiée, vous voyez, qu'en 1960. Bon, tout simplement parce qu'on avait des bordels de campagne à préserver un peu partout dans nos territoires et nos colonies. Donc, quand on n'a plus eu de... Et quand on a réfléchi à ce que ça signifiait, on a pu ratifier la Convention internationale. Bien. Et qui disait déjà qu'on devait aider les personnes, les victimes à sortir de cette situation. Donc, c'est là qu'on met en place des établissements financés par l'État, dans une politique publique, pour accueillir des hébergements, des établissements, pour accueillir les personnes prostituées. Ça s'est fait à peu près au même moment que des établissements qui accueillaient des personnes qui sortaient de prison pour les réinsérer, etc. Donc, vous voyez, ça remonte quand même assez loin. Avant, nous avions des foyers, mais bon. Et puis, l'Amicale du Nid sort un peu de l'idée de départ de création de l'Amicale du Nid, qui était un mouvement catholique. L'Amicale du Nid recrute de plus en plus de travailleurs sociaux, donc de professionnels, réduit le bénévolat, et évidemment, les professionnels veulent travailler dans une association laïque, où le problème confessionnel ne se pose pas, et voilà, puisqu'il y avait
donc,
là un conflit.
Là, ça,
donc il y a un conflit entre deux branches, en quelque sorte. Le Mouvement du Nid
qui reste catholique.
Reste catholiques, alors ils le sont de moins en moins, mais ça c'est à eux de le dire. Mais je veux dire, bon, mais ils restent effectivement, et surtout avec un bénévolat important et des personnes qui effectivement récupèrent un peu au départ, plus maintenant, les personnes prostituées dans une croyance, une pratique.
Une morale chrétienne.
Qui s'applique, donc que nos professionnels refusent à l'Amicale du Nid. Et donc nous nous séparons et nous avons... Mais nous restons les deux abolitionnistes.
Alors on est dans quelles années, là ?
Alors on est dans les années 70.
70.
Voilà. Où là, vraiment, comme on était obligés de recruter des professionnels, des travailleurs, des travailleuses sociales. Et donc, évidemment, au fur et à mesure, on sent une tension sur deux façons de concevoir l'action là, envers les victimes de la prostitution.
Alors aujourd'hui, l'Amicale du Nice, c'est combien de personnes salariées ?
Alors c'est 200 personnes salariées, hein, et l'accompagnement, l'accueil est fait par des salariés, bien sûr. C'est 8 établissements dans 8 départements français.
Voilà. Vous pourriez encore...
Oui, mais ça, c'est une question de financement. Comme nous sommes financés sur fonds publics, c'est une question de volonté politique, on y revient, hein, d'une politique d'État qui souhaiterait... et il va le falloir. Si on veut vraiment appliquer la loi, il va le falloir parce que nous sommes déjà totalement dépassés. Mmh. Nous avons des files d'attente... de personnes qui aimeraient avoir notre accompagnement, notre aide pour sortir de là.
Donc voilà, donc la loi est là, les décrets d'application sont là, et maintenant il faut d'autres moyens pour vraiment mettre en œuvre ces décrets d'application.
Alors oui, les décrets d'application ne suffisent pas, c'est-à-dire qu'il faut financer ensuite la mise en œuvre. Il faut la financer, donc vous savez que les finances concernant les femmes sont toujours très faibles, hein. Pour l'ensemble, c'est 0,006% du budget de l'État, donc on est loin du compte. Le changement de gouvernement n'a pas aidé à abonder effectivement ce budget. Mais pour être juste, il faut quand même savoir que le service d'État des droits des femmes, hein, à Paris, a mis des fonds pour, par exemple, former les intervenants sociaux un peu partout sur le territoire, pour aider à faire des diagnostics de la prostitution dans différents territoires, dans différents départements, où il n'y a même parfois pas d'association du tout qui s'occupe des victimes. Donc il y a quand même eu un effort. Et puis nous sommes financés par ailleurs pour les CHRS, les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, ça qui date d'il y a longtemps, des années 60, mais de façon insuffisante. Tout ça est insuffisant au niveau du financement. Et puis, il y a la volonté politique qui se traduit par le financement, mais qui se traduit aussi par la mise en place des éléments de la loi, à savoir, pour commencer, les commissions départementales qui sont chargées de mettre en place, autour du préfet, avec les différentes institutions représentées, de mettre en place une politique de lutte contre la prostitution, contre la traite des êtres humains, et en particulier contre la prostitution des mineurs, bien sûr.
Donc ces commissions sont en place ?
Alors ces commissions, il y en a 66 sur son département. Donc ça s'est mis en place lentement, mais ça s'est mis en place quand même. Et ces commissions sont chargées de mettre en place des parcours de sortie de la prostitution. Donc elles étudient les dossiers présentés par les associations qui accompagnent les personnes, des associations agréées dans chaque département, à l'instruction de leur dossier. Donc on en est à 113 parcours. L'Amicale du Nid en a 74. Vous voyez, on est une des grandes associations, évidemment.
74 personnes.
Personnes. 113 parcours, 2 personnes, ce qui fait... voilà. Alors on pourrait penser que c'est rien, 113 parcours, c'est rien. Mais souvent, on ne voit que ça. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est que même s'il y a eu une loi importante pour l'affirmer et l'organiser, ça fait longtemps, ça fait des années, puisque je vous parle de l'Amicale du Nid depuis... qui vit et existe, et le mouvement du Nid depuis très longtemps. Ça fait longtemps que nous accompagnons des personnes prostituées pour les aider à sortir de la prostitution. Donc on n'a pas inventé ça là, en 2016. Mais là, avec les commissions, c'est quelque chose qui officialise la trajectoire, qui permet aux différents partenaires de prendre conscience de ce que c'est, combien c'est dur et combien c'est lourd, quand on a subi cette violence, de sortir de cette situation. Et c'est aussi un moyen de mettre en place des politiques très, très précises d'aide, et en particulier d'aide aux personnes étrangères qui ont été victimes de prostitueurs, de trafiquants, etc. Comme nous en avons la majorité des cas maintenant, nous recevons, c'est ça, des personnes.
C'est comme si ça devenait une affaire d'État.
C'est une, voilà.
Une affaire d'État, ça dépasse le monde associatif.
Oui, c'est un problème, la prostitution, c'est un vrai problème social.
Oui.
Et c'est un problème de santé publique aussi, parce que l'effet sur la santé de la prostitution est catastrophique, est dramatique. Avec des taux de mortalité supérieurs à tout ce qu'on connaît, avec des taux de suicide supérieurs à tout ce qu'on connaît. Enfin, c'est un vrai problème. Mais en même temps, derrière, vous le sentez, il y a le problème des personnes étrangères, en particulier des femmes étrangères prises dans les réseaux, les trafics de traite. Et donc là, on a des réticences, des résistances. Si on fait une politique en faveur des personnes qui ont été soumises, des victimes de la traite, alors on va faire un appel d'air, on va faire venir... Vous voyez l'idée ?
Oui.
Donc on a, pour la mise en application, des difficultés. Un préfet hésite à faire ce qu'il faut. Or, cette loi est importante pour ces victimes, parce que souvent ces victimes n'ont pas le droit de travailler, n'ont pas le droit aux revenus sociaux de base. Donc, ouais. Comment les faire sortir de la prostitution si elles n'ont aucun droit ?
Exact, on se mord la queue.
Évidemment, on refuse que ce soit une raison, la prostitution, pour les faire repartir dans leur pays. Ce sont des victimes, il faut les protéger, il faut traiter le problème chez nous. Nous sommes responsables des trafics que nous avons laissés faire chez nous. C'est quand même la première des choses à voir, des crimes qui se font chez nous. Ce sont des crimes. La traite des êtres humains, ce sont des crimes.
Finalement, vous avez ouvert une boîte de Pandore.
Donc, voilà. Donc, on a une allocation, effectivement, de base qui est donnée lorsqu'on ne peut pas avoir de revenus sociaux. Et on a des permis de séjour avec possibilité de travailler. Sinon, ces personnes ne peuvent pas se réinsérer, ne peuvent pas sortir.
Ouais. Hein.
Et encore, donc c'est difficile à appliquer, mais ça s'applique. La protection des victimes de traite n'est pas parfaite en France, loin de là. Et l'organisme d'ailleurs européen qui contrôle la mise en application des directives et des règles européennes en matière de lutte contre la traite des êtres humains, quelles que soient ses formes, est venu récemment et a rappelé que la France n'appliquait pas les textes complètement, était en retard.
Il y a encore des barrages à...
Ne protège pas les personnes, les victimes, ne lutte pas sérieusement contre la traite des enfants, enfin des mineurs. Donc il y a encore énormément de travail dans ce pays, des droits de l'homme, comme on appelle, pour la lutte contre la traite. Alors on a tout dans la loi, mais bon,
voilà. Maintenant,
il faut l'appliquer.
Il faut l'appliquer.
Et les clients, pareil, il faut l'appliquer.
Ouais.
3 000 amendes, là. Mais dans 10 départements, très irrégulièrement appliquées, parce que, en fait, l'application de cette mesure, d'abord, elle ne plaît pas à tous, donc. Et puis, il faut que la volonté du procureur de la République, vraiment, pour qu'il dise
au
service de gendarmerie et de police, allez-y. Sinon, ça bouge
on
pas.
Laisse courir, oui.
Et puis, il y a une autre dimension qui est importante, c'est que tout ce qui est contravention n'est pas vraiment compté dans les résultats de la police. Donc.
Bon. L'Amicale du Nid n'est pas prêt de mourir.
L'Amicale du Nid, hélas, alors, vis-à-vis des victimes, n'est pas prêt de mourir. Alors que je dis toujours, une association comme la nôtre ne doit souhaiter qu'une chose,
et oui, c'est d'arrêter.
Qu'elle soit rapidement, le plus rapidement possible, inutile.
C'est ça. Voilà. Vous n'en prenez pas le chemin.
Mais si on espère qu'en France, on va voir une diminution, effectivement, réelle de la prostitution. Ça existe dans d'autres pays. En Suède, ils sont quand même arrivés à limiter effectivement la prostitution et la traite des êtres humains par une loi semblable à la nôtre. D'ailleurs, c'est copié. Enfin, on parle toujours du modèle suédois. Il faut comparer ce qui est comparable. La Suède est un tout petit pays. Mmh. Alors, des choses sont peut-être plus faciles à mettre en place que dans un pays comme la France, c'est évident.
Le 8 mars, c'est la journée internationale des droits de la femme.
Oui.
Là encore, vous, l'Amicale du Nid, vous-même, Geneviève Duché, vous êtes aussi impliquée dans cette journée, dans cette revendication ?
Bien sûr, je suis impliquée d'abord parce que je suis féministe depuis toujours. Donc, c'est une journée importante. Ouais. Il ne faudrait pas d'ailleurs s'arrêter à cette journée pour parler de l'égalité entre les femmes et les hommes. Mais je le fais, moi, souvent, et j'appartiens aussi au CIDF de l'Hérault. Donc, je suis au bureau du CIDF de l'Hérault depuis un moment déjà. Donc, effectivement, je suis totalement concernée avec d'autres par cette journée. Et c'est une occasion aussi de rappeler quelle est l'importance de la lutte contre toutes les formes de violence contre les femmes, bien sûr. Avec cette violence, la violence empêche la liberté, la violence... d'appliquer les droits et d'être sujet de droits. Donc, il faut absolument lutter contre ces violences.
Merci Geneviève Duché. Merci. Et voilà, on peut trouver la nouvelle édition de Non au système prostitutionnel aux éditions Percé, un livre que vous aviez publié en 2014 et qui maintenant est doté d'une mise à jour suite à l'application, à la loi de 2016 et à ses applications.
Voilà. Merci
Geneviève. Au revoir.
Au revoir.